Bonsoir. Des douaniers submergés de travail à Roissy face à l'afflux de masques venus de Chine, c'est l'embouteillage. Face aux normes différentes et nombreuses, les vérifications prennent du temps. 100 millions de masques seront malgré tout distribués chaque semaine aux professionnels de santé, promesse signée Olivier Véran, le ministre de la Santé. Lequel fera d'ailleurs cette semaine l'objet d'une plainte. Plainte que devrait déposer l'épouse d'un médecin urgentiste décédé du coronavirus à Lons-le-Saunier le 23 avril. Nous l'entendrons. Les Français qui étaient partis se confiner en famille ou dans leur résidence secondaire pourront évidemment rentrer chez eux pour reprendre le travail ou scolariser les enfants. Précision apportée ce dimanche par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Dans ce journal également, les musulmans qui manquent de place pour enterrer leurs morts dans les cimetières de France, une association saisit la justice. Boris Johnson qui raconte son expérience à l'hôpital et dit avoir frôlé la mort. Les navigateurs qui veulent pouvoir retourner en mer, des joyaux, Cléache et autres demandent au gouvernement de rouvrir les plages. Et puis la météo, de la grisaille au nord le matin, du soleil à peu près partout ensuite.
France Inter.
Ils auront des masques autant que besoin, le ministre de la Santé Olivier Véran l'a dit aux Parisiens dimanche. Dès le 11 mai, ce sont 100 millions de masques qui seront distribués gratuitement aux professionnels de santé chaque semaine, le double de ce qui se faisait jusqu'à présent. Les masques sont arrivés et continuent d'arriver en masse à Roissy. Pour ceux, la plupart, qui sont importés de Chine, bien sûr, c'est comme s'il en pleuvait sur le tarmac. Mais il ne suffit pas de les réceptionner, il faut après libérer les produits, comme on dit. Et c'est là que le bât blesse, Emmanuel Leclerc. Les douaniers peuvent être parfois déroutés.
Assez certain, Yves, on ne nie pas du côté des douanes un côté chaotique au départ ces dernières semaines, lors du changement des normes, des masques, de la norme CE à la norme internationale. Tout cela écrit en chinois la plupart du temps, avec en plus des importateurs parfois un peu amateurs. Isabelle Braun est la directrice générale des douanes.
Alors, est-ce que les douaniers sont perdus ou pas perdus? Ils ont fait preuve d'une grande adaptation. Mais c'est vrai qu'au démarrage, c'était assez compliqué. Aussi parce que les dossiers qui nous arrivaient un peu, on va dire, de manière désordonnée, avec énormément de pièces justificatives. En général, pas celles qu'il nous fallait. Et puis, il y a les cas un peu difficiles sur lesquels on s'acharne, mais ils ne sont pas en si grand nombre que ça.
Pour Isabelle Braun, la situation s'est nettement améliorée depuis quelques jours, même s'il y a parfois des blocages liés à de sérieux problèmes sur la qualité de la marchandise.
Ce n'est pas être tatillon, c'est juste le respect des normes. Et le respect de ces normes, ça garantit l'efficacité de la filtration et de la respirabilité. Donc, ce n'est pas totalement anodin et ça protège la population. 90% des cas, c'est en moins d'une journée que ça passe. Il y a 50% des cas, c'est en moins de 30 minutes quand même. On a trouvé d'abord des faux certificats de conformité émis par des organismes italiens et polonais, pour ne pas les citer, qui n'étaient pas habilités. Puis on a trouvé des matériels défectueux et qu'on a mis de côté.
Il y a enfin, Yves, le problème de l'aéroport parisien de Roissy, parfois encombré en semaine ces derniers temps sur le dédouanement de cargaisons de masques, mais pas le week-end, selon Isabelle Braun. Et puis sinon, il y a deux autres aéroports comme point de passage possible, celui de Lyon et de Marseille.
Emmanuel Leclerc, 23 000 opérations de dédouanement de masques ont été faites en deux mois. À propos de masques et du manque de masques dont ont souffert les professionnels de santé au début de l'épidémie, la femme du docteur Loupiac va porter plainte. Ce médecin urgentiste à l'hôpital de Lons-le-Saunier dans le Jura est décédé du coronavirus il y a 10 jours, le 23 avril. Il a été inhumé jeudi dernier. Claire Loupiac l'annonce dans les colonnes du Monde. Elle déposera plainte cette semaine pour négligence et mise en danger de la vie d'autrui, Marianne Naquet.
Oui, une plainte contre Olivier Véran, le ministre de la Santé, et sa prédécesseur Agnès Buzyn. Pour Claire Loupiac, ils n'ont pas anticipé la crise sanitaire. Cette plainte vise aussi l'Agence régionale de santé et le directeur de l'hôpital de Lons-le-Saunier, où son mari travaillait depuis des années. La veuve de l'urgentiste dénonce le manque de masques FFP2. Selon elle, son mari aurait été contaminé pendant une de ses gardes début mars. Une garde où les médecins n'auraient eu que des masques chirurgicaux pour se protéger. Faux, répond l'hôpital de Lons-le-Saunier. Le directeur l'affirme, il y a eu dès février des masques pour les soignants. Difficile selon lui de prouver que le docteur Loupiac a bien été contaminé à l'hôpital.
Pour le retour au travail, le 11 mai ou les jours suivants, il faudra des masques. Mais les salariés devront respecter un certain nombre de règles. À charge pour les entreprises de les mettre en œuvre. Distanciation, désinfection. Ça ressemble un peu aux 10 commandements. Un protocole de déconfinement sera rendu public dans les heures qui viennent par le ministère du Travail. Autre protocole qui concerne les écoles maternelles, élémentaires également. La version définitive doit être mise en ligne demain sur le site du ministère. On y retrouve les recommandations déjà énoncées. La distance d'un mètre entre les tables, ce qui devrait faire 16 élèves et pas plus, dans une salle de 50 mètres carrés. Les repas en salle de classe, si la cantine ne permet pas le respect des distances. Lavage des mains plusieurs fois par jour au lavabo ou si besoin par solution hydroalcoolique. 2 masques par jour fournis aux enseignants. Des heures d'arrivée et de récréation échelonnées. Un sens unique de circulation dans l'école. Protocole à consulter en détail sur franceinter.fr. Le protocole concernant les collèges et les lycées devrait être également publié dès demain. Autre sujet qui mériterait encore d'être précisé, les déplacements interrégionaux d'un département ou d'une ville à l'autre. On pourra passer d'une zone verte à rouge et inversement en restant dans la limite des 100 km, sauf motif professionnel ou familial impérieux qui nécessitera une attestation. En tout état de cause, précision utile apportée ce midi par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, tous ceux qui étaient allés se faire confiner ailleurs pourront rentrer chez eux.
Quand ils sont partis, ils avaient le droit de partir. Il n'y avait pas la règle des 100 km. Et donc, évidemment, on ne va pas dire aux gens, stop, ne bougez plus. Ils ont la possibilité de rentrer à leur domicile principal pour reprendre une activité professionnelle ou pour scolariser les enfants. C'est pour l'essentiel des départs que nous avons pu constater, des gens qui, avant le début du confinement, ont fait le choix du départ et ça n'était pas interdit. Il faudra que chacun ait rempli une attestation de retour à son domicile, un motif familial impérieux, et donc il y aura des contrôles aussi sur les retours pour constater cela. Ensuite, après le 11 mai, pour l'essentiel, il n'y aura plus d'attestation. Le process est inversé. Nous faisons le choix de la liberté de déplacement, mais nous l'encadrons. Et nous faisons en sorte que nous limitions les grands déplacements qui peuvent faire courir un risque de propagation du virus. Les 100 km répondent à cette demande-là. Nous ne souhaitons pas interdire aux Français de se déplacer. Mais nous souhaitons empêcher le virus de se déplacer.
Christophe Castaner sur LCI. Ce qui ne changera pas le 11 mai, c'est la situation des cultes. Églises, mosquées, temples et synagogues resteront fermés pour l'essentiel. La conférence des évêques de France dit espérer que les cérémonies seront à nouveau possibles dès le 31 mai pour la Pentecôte, avant la date du 2 juin évoquée par Christophe Castaner. D'ici là, seuls les obsèques peuvent être célébrées avec pas plus de 10 personnes. À ce propos, c'est du côté des musulmans qu'un certain nombre de familles se retrouvent aujourd'hui en situation délicate, car avec l'impossibilité de rapatrier les corps dans le pays d'origine, on découvre aujourd'hui un manque criant de places dédiées au culte musulman dans les cimetières, au point qu'une association a décidé de saisir la justice. Sébastien Sabiron.
Outre la toilette rituelle interdite en cas de Covid, c'est l'ensemble du deuil qui est impossible pour de nombreux musulmans, estime Samad Akrash. Il préside l'association Tahara qui accompagne les familles endeuillées.
Je reçois des appels tous les jours, des familles endeuillées, attristées, qui ne peuvent pas faire leur deuil par rapport à leurs défunts qui sont encore dans les morgues, dans les funérariums ou tout simplement à Rungis.
Habituellement, 80% des défunts sont rapatriés, impossible en ce moment, mais passé la pandémie, la question du manque de carrés musulmans se posera à nouveau, estime Samad Akrash.
Pour nous, citoyens français de confession musulmane et pour les futures générations, nous souhaitons pas être rapatriés. Je suis aide-soignant au service de l'État. Ma famille, c'est ici. Mon pays, c'est la France. C'est pas le Maroc.
L'association a saisi la justice pour demander au maire de Montreuil d'agrandir le carré musulman. Recours rejeté par le tribunal administratif. Pas de caractère d'urgence, dit-il. À Gennevilliers, le maire communiste Patrice Leclerc n'a pas attendu pour agir.
Dès que les services municipaux m'ont dit que le carré musulman risquait d'être plein d'ici 2 ou 3 semaines, j'ai proposé qu'on agrandisse le carré et j'ai aussi écrit au préfet des Hauts-de-Seine pour qu'il explique au maire que c'était simple. Il n'y a pas besoin d'arrêté municipal ni d'arrêté du maire.
Si la loi n'oblige pas les communes à proposer des carrés confessionnels dans leur cimetière, une circulaire de 2008 les y incite.
Une circulaire rappelée aux élus ces dernières semaines par les préfets de l'Oise et de l'Essonne notamment. On notera que parmi les 35 000 cimetières français, 600 seulement à ce jour ont des places dédiées aux musulmans.
Il est 19h09 sur France. France Inter, vous écoutez le journal d'Yves Decaen et vous avez bien raison.
À l'étranger, la drôle de comparaison de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui a repris ses fonctions en début de semaine après 10 jours d'hôpital et 3 nuits en soins intensifs, a raconté son expérience au tabloïd The Sun of Sunday, disant avoir frôlé la mort, en révélant surtout que son cabinet avait réfléchi à l'éventualité de son décès et préparé un scénario du type la mort de Staline. Antoine Gignot nous appelle de Londres.
Tout était prêt pour l'annonce de mon décès, explique Boris Johnson. Les médecins avaient mis en place une stratégie pour pouvoir faire face à un scénario du type mort de Staline. Ils avaient, dit-il, toutes sortes d'instructions pour savoir quoi faire si les choses tournaient mal. Et il raconte ensuite les litres et les litres d'oxygène pendant 3 jours d'affilée, la santé qui se détériore rapidement sans pouvoir comprendre pourquoi. Et cette question, au moment où le personnel de l'hôpital lui explique qu'il va peut-être falloir l'intuber, comment vais-je m'en sortir ? Les analyses de sang étaient de plus en plus mauvaises. C'est là, précise le Sun, que Boris Johnson s'est vraiment rendu compte qu'il n'y a pas de remède face au coronavirus. C'est là aussi, sans doute, que son discours a changé. Le tabloïd évoque les yeux du Premier ministre qui rougissent lorsqu'il parle des soins merveilleux des infirmiers. Avec le recul, dit-il, les médecins ont eu raison de me forcer à aller à l'hôpital. Des médecins à qui il a rendu hommage en gardant leur prénom dans le 3e prénom de son fils. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Ce soir, l'épidémie marque un repli outre-Manche avec 315 morts supplémentaires. Boris Johnson annoncera dans la semaine un allègement des restrictions mises en place depuis le 23 mars et jusqu'au 7 mai. Ne pas s'attendre à retrouver la situation d'avant, a toutefois prévenu le gouvernement. Mais le Premier ministre le dit aussi au tabloïd The Sun of Sunday. Il est pressé de remettre le pays sur pied comme un fait exprès. Le groupe Rolls-Royce a annoncé ce dimanche la possible suppression de 8000 postes dans ses usines de moteurs pour l'aviation. Conséquence bien sûr de l'effondrement du trafic aérien. Une annonce qui vient s'ajouter aux 3000 suppressions de postes envisagées par Ryanair et aux 12 000 annoncées par British Airways. Virgin Atlantic, qui dit également s'interroger, a demandé l'aide du gouvernement qui n'a pour l'instant rien promis. À ce chapitre économique également, beaucoup de reportages l'ont souligné. Le trafic de drogue, et oui c'est de l'économie, c'est également effondré. Les consommateurs et les vendeurs ne sont plus libres de leur mouvement. C'est tout un système qui s'écroule jusque dans les zones de production les plus isolées, comme ici au Pérou. C'est une correspondance d'Éric Sanson.
Il est compliqué de trouver une région plus difficile d'accès que le Vrem au Pérou. La vallée des fleuves Apurimac, Ene et Mantaro est le refuge des derniers membres dissidents de la guérilla maoïste du Sentier Lumineux, aujourd'hui plus trafiquants de drogue que révolutionnaires. C'est là, à plusieurs heures de mauvaise route de la ville d'Ayacucho, que sont plantés 24 des 49 000 hectares de coca illégale du Pérou. Depuis janvier pourtant, l'économie souterraine de la région est en berne. Le prix du kilo de feuilles de coca a perdu 46%, ce qui réduit de moitié les revenus des petits planteurs de coca et de tous ceux qui utilisent des laboratoires de fortune pour transformer la coca en pâte base de cocaïne, dont le prix a perdu 51%. Selon la Commission nationale pour le développement et la vie sans drogue, qui surveille les prix de la feuille de coca et de ses dérivés, le prix du kilo de cocaïne a quant à lui perdu 58% depuis janvier dans le Vrem. Il ne valait en avril que 670 euros le kilo. Quito, Éric Sanson, France Inter.
En bref, dans le monde, le plus faible bilan depuis le début du confinement. En Italie, 174 décès ces dernières 24 heures. L'état d'urgence prolongé jusqu'au 2 juin au Sénégal, où l'épidémie reste officiellement contenue, avec un peu plus d'un millier de cas et 9 morts. Malgré tout, le président Macky Sall maintient la fermeture des frontières et des écoles, l'interdiction des prières collectives et le couvre-feu. Aux États-Unis, de nouvelles accusations contre la Chine. Après Donald Trump, c'est son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui l'affirme. Il y a des preuve immense que le nouveau coronavirus soit parti d'un laboratoire de la ville de Wuhan. La Chine est connue, ajoute Mike Pompeo, pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes. Vendredi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait annoncé qu'à son avis, après consultation de nombreux scientifiques, le virus était d'origine naturelle. L'OMS qui appelle la Chine à inviter ses experts à venir à Pékin pour enquête. Conséquence inattendue de l'épidémie sur le plan médical à travers le monde, on l'a beaucoup dit, beaucoup de consultations ont été reportées, des traitements non urgents ont été interrompus, mais aussi beaucoup de vaccinations n'ont pas été faites. C'est vrai en France et c'est vrai surtout en Afrique et au Moyen-Orient où des millions d'enfants pourraient ne pas être immunisés contre la rougeole ou la polio, d'où cet appel de l'UNICEF au gouvernement et aux autorités sanitaires des pays concernés. Malgré la pandémie, rappelle l'UNICEF, la vaccination est possible et même indispensable. Retour en France avec le débat sur les plages qui se poursuit. De nombreux maires des villes côtières leur répètent, il n'y a pas plus de danger à se promener sur une plage que d'aller faire ses courses. Pourquoi ne pas les ouvrir une heure ou deux par jour, s'interroge également le président de la Fédération des médecins de France. Rouvrons les plages le 11 mai. C'est aussi le mot d'ordre que soutiennent les navigateurs qui, eux, sont pressés, bien sûr, de retourner en mer. Parmi eux, l'ancien skipper Jimmy Pahin avec Jean-Pierre Blimoux.
Moi, je me souviens de plusieurs choses que nous a dit le Premier ministre. Mardi, il nous a dit que le cadre du gouvernement était de définir un cadre général qu'allaient adopter à la fois les maires et les préfectures. On a sur certains morceaux de côte de France quand même des longues plages où on peut mettre en avant ce projet de plage dynamique, quoi. Donc j'espère vraiment que d'ici le 11, on va pouvoir revoir un petit peu les choses. Il va falloir qu'on se responsabilise et sincèrement, je trouve que toutes les fédérations de surfeurs, de marches aquatiques, de kite, ne serait-ce que les promeneurs, ils vont se prendre en main. On va se prendre en main et puis si on n'est pas capable de se prendre en main, et ben à nouveau on les refermera quoi. Mais il faut vraiment laisser et aux maires et aux préfets par département la possibilité de réouvrir les plages quoi. Parce que notre littoral c'est notre jardin. Vous savez même les gendarmes de ma brigade à Port-Louis dans le Morbihan me le disent. Il faut vraiment qu'on puisse laisser aux gens retourner sur la mer, sur la plage et on pourra peut-être aller un petit peu plus loin pour pratiquer une heure, pour prendre une baignade, surtout pas étaler sa serviette de bain quoi. Hein.
L'ancien skipper Jimmy Pahin, aujourd'hui député du Morbihan. La pétition Rouvrons les plages, également soutenue notamment par Michel Desjoyeaux ou Armel Lecléache, a déjà recueilli 16 000 signatures en réponse à ces revendications. Christophe Castaner a réaffirmé que l'interdiction visait notamment à empêcher que certains fassent 300 km au mois de mai pour aller sur les plages. Allez, des vieux loups de mer, on passe au tigre d'eau douce, qui n'est pas une insulte du capitaine Haddock. C'est le nom d'un groupe de jazz emmené par Laurent Barden, formé au Conservatoire de Jazz de Paris, et qui sort son premier album sous ce nom de Tigre d'eau douce. Très peu d'artistes ou de groupes se risquent à proposer des nouveautés depuis le début de la crise, c'est à noter. Mais en l'occurrence, si l'on en croit Mathieu Culeron, eh bien c'est une excellente idée.
Après avoir revisité Sonora aux côtés de Thomas de Pourquery dans le groupe Supersonic, après avoir fondé le groupe culte Ponyhawks, Laurent Barden endosse cette fois le costume de Tigre d'eau douce. Entouré de ses vieux camarades, le projet de Laurent, au départ très free jazz, est devenu petit à petit une musique nomade, passant du groove congolais à la soul langoureuse des années 70 à la Gilles Scott-Heron. Le Tigre d'eau douce Barden a toujours été fan de John Coltrane et d'Albert Ayler, mais leur offre cette fois un passeport pour d'autres continents, de l'Afrique à l'Asie. Comme un conte des mille et une nuits, ce disque est un petit bonheur de délicatesse, une comptine merveilleuse et probablement le meilleur remède à la mélancolie et au confinement. Une escapade apaisante où il est question d'enfance et de passion, d'apache, de tigre, de cabane et de Kinshasa. Inventif et maîtrisé, Love is Everywhere est probablement le meilleur album jazz de ce printemps, à dévorer sans modération.
Album de jazz aux accents exotiques, Laurent Barden et Tigre d'eau douce. En rappelant aussi ce soir la mort du chanteur algérien Idir, grand ambassadeur de la chanson kabyle. Il est mort hier à Paris à 70 ans. Ce soir, grand corps malade, salue celui qui était pour lui une icône absolue, dit-il.
Merci pour ce journal, Yves Decan. Dans un instant, le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
Prévision signée Jean-Michel Golinski.
Demain, après une matinée entachée de grisailles, surtout dans la moitié nord du pays, sur la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse, avec de possibles ondées près de la Belgique et du Luxembourg, le soleil va largement s'imposer partout en seconde partie de journée, malgré une dose supplémentaire de cumulus l'après-midi au nord de la Seine. En soirée, le ciel va se brouiller beaucoup plus sérieusement près de l'océan, à l'approche d'un temps pluvieux instable et orageux pour la nuit suivante. Les températures du début de la journée vont varier entre 8 et 14 degrés du nord au sud. L'après-midi, chaleur dans le sud-ouest jusqu'à 30 degrés prévus à Agen, 33 à Biarritz. Il fera 24 à 27 comme aujourd'hui près de la Méditerranée. 20 en moyenne du nord de la Loire au Grand Est et 24 à 28 sur le centre, la Charente, le Limousin et en Rhône-Alpes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.